Radio Vatican, France-Afrique.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien à l'écoute de Radio Vatican. Bienvenue dans cette nouvelle édition de notre programme. Dans l'actualité de l'Église, la liberté chrétienne, ferment universel de libération, tel était le thème de la catéchèse du pape François au cours de l'audience générale du mercredi 13 octobre. Nous en parlons dans quelques instants. Le pape Jean-Paul Ier sera béatifié. François a autorisé mercredi 13 octobre la Congrégation pour les causes des saints à promulguer le décret sur la guérison miraculeuse attribué à l'intercession de Jean-Paul Ier, ce qui ouvre la voie à sa béatification. Également dans cette édition, vous entendrez l'archevêque de Ouagadougou au Burkina Faso et président du CHEAM, le cardinal Philippe Ouédraogo, dans un entretien qu'il a accordé à Radio Vatican. En ce qui concerne l'actualité sociopolitique de cette édition, elle nous conduira en Éthiopie, au Kenya, en Algérie, entre autres. À tous et à toutes, bienvenue dans cette édition.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niémier.
La liberté chrétienne, ferment universel de libération, tel était le thème de la catéchèse du pape François au cours de l'audience générale du mercredi 13 octobre en la salle Paul VI au Vatican. S'appuyant sur la lettre de saint Paul aux Galates, le Saint-Père est revenu sur le sens de l'inculturation de l'Évangile, reconnaissant que des erreurs avaient parfois été commises en la matière. Donatien Nyombo.
Il fatto che con la morte e la resurrezione di Gesù Cristo siamo stati liberati dalla schiavitù del peccato e dalla morte.
Saint Paul nous enseigne que la mort et la résurrection de Jésus-Christ nous libèrent de l'esclavage du péché et de la mort. Pour entrer dans cette condition nouvelle de liberté, seul compte la foi qui opère par la charité, a souligné François.
Accogliere la fede comporta per lui rinunciare non al cuore delle culture e delle tradizioni, ma solo a ciò che può ostacolare la novità e la purezza del Vangelo.
La foi n'entre pas en conflit avec les cultures et les traditions. Elle n'implique pas d'y renoncer, mais seulement à ce qui, en elle, fait obstacle à la nouveauté et à la pureté de l'Évangile, a expliqué le Saint-Père, indiquant que la foi entre dans toutes les cultures en reconnaissant les germes de vérité et les développe, portant à leur plénitude le bien qu'elles contiennent. C'est ainsi que l'annonce du Christ Sauveur respecte ce qu'il y a de bon dans les cultures auxquelles elle s'adresse. C'est l'inculturation de l'Évangile qui n'est pas une chose facile, a-t-il poursuivi. L'Église a en elle-même une ouverture universelle à tous les peuples de tous les temps. C'est le sens même du mot « catholique », car le Christ est né, mort et ressuscité pour tous les hommes. La liberté chrétienne n'est jamais définitivement acquise. Dans un monde en perpétuelle transformation, elle est un don que nous devons garder et faire grandir jusqu'à sa plénitude, a conseillé l'évêque de Rome, avant d'impartir sa bénédiction aux fidèles de langue française.
Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese. Dio vi benedica.
Le pape François a autorisé mercredi la Congrégation pour les causes des saints à promulguer le décret sur la guérison miraculeuse attribué à l'intercession de Jean-Paul Ier, ce qui ouvre la voie à sa béatification. Il s'agit de la guérison d'une fillette de 11 ans à Buenos Aires, en Argentine, le 23 juillet 2011, qui souffrait d'une encéphalopathie inflammatoire aiguë sévère, d'une maladie épileptique réfractaire maligne, d'un choc septique et qui était alors en fin de vie. Né le 17 octobre 1912 à Forno di Calenna en Italie et mort le 28 septembre 1978 au Vatican, Albino Luciani a été pape pendant seulement 33 jours, l'un des pontificats les plus courts de l'histoire. Présent à Rome à l'occasion de l'ouverture du synode sur la synodalité dans l'Église, le 10 octobre dernier, l'archevêque de Ouagadougou au Burkina Faso et président du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, CHEAM, a présidé mardi 12 octobre une célébration eucharistique pour l'Afrique en la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome. On notait à cette messe la présence des représentants diplomatiques des pays d'Afrique près le Saint-Siège et de nombreux fidèles fidèles. Le cardinal Philippe Ouédraogo qui nous explique ici l'objectif de cette messe.
Pour l'ouverture officielle du synode, il y a eu des travaux de groupe linguistique. Et dans notre groupe, on a beaucoup insisté sur la dimension de la prière, l'importance de la prière. Et c'est dans ce sens que, en tant que président du CHEAM, j'ai proposé que nous puissions célébrer une messe ensemble à Sainte-Marie-Majeure pour une messe en faveur de l'Afrique. Prier pour la paix en Afrique, pour l'évangélisation en Afrique et aussi pour la réussite de la démarche synodale qui comporte plusieurs étapes depuis les paroisses, diocèses et au niveau des nations. Nous levons les yeux et les mains vers le Seigneur qui est le maître de tout. Entre les mains de la Maman du Ciel, j'ai proposé Marie Majeure parce que cette basilique est dédiée à Marie. C'est une mère. Et comme le dit le proverbe de la savane, celui qui a une maman, il ne lui manque jamais de la farine. Donc nous sommes sûrs que nous allons être écoutés et par son intercession et l'intercession de Saint-Joseph dont c'est l'année, protecteur universel de l'Église, nous sommes sûrs que nous serons écoutés et que nous pourrions avoir la force et l'espérance nécessaires pour continuer le quotidien assez difficile de nos vies individuelles et communautaires.
Le cardinal Philippe Ouédraogo. Bien avant cette Eucharistie, l'archevêque de Ouagadougou et président du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar a été reçu en audience lundi 11 octobre par le Saint-Père avec une petite délégation. L'occasion d'exposer au pape le travail accompli par le CHEAM et d'évoquer plusieurs situations difficiles sur le continent africain, dont celle du Burkina Faso. Le cardinal Ouédraogo qui revient dans cet entretien sur cette audience avec le pape.
Le secrétariat pour le synode, au nom du Saint-Père, a invité chaque continent à envoyer une délégation de 10 personnes pour participer à l'ouverture officielle du synode. Cela est une opportunité pour nous. L'Église étant une famille, le conseil de présidence du CHEAM a demandé une audience au Saint-Père. Cela a été fait tardivement, mais à notre grande surprise, notre requête a été favorablement accueillie et nous avons pu rencontrer le Saint-Père. C'est vraiment un signe de communion. Et le pape a été très attentif à notre message, qui était très simple. L'Église étant une famille, nous l'avons d'abord remercié pour sa sollicitude pastorale au niveau de l'Église universelle et en particulier au niveau de notre Afrique, l'Église famille de Dieu en Afrique. À maintes reprises, au cours des Angélus, il s'est manifesté, il a manifesté la communion, la compassion et les encouragements du peuple africain qui traverse, qui connaît des difficultés au même titre que les autres peuples. Par exemple, à l'occasion des attaques terroristes, il s'est toujours manifesté en priant pour nous et en demandant de prier pour nous. Et même les non-chrétiens sont très sensibles à ce message. Donc c'est vraiment une rencontre entre le père de famille avec ses enfants, disons, qui sont en Afrique. Et nous lui avons demandé de bénir non seulement les fils et filles de l'Église famille de Dieu, mais tous les habitants du continent africain. C'était vraiment un signe de communion et nous lui avons manifesté aussi notre communion effective et affective. Les choses se sont bien passées au-delà de nos attentes.
Alors j'imagine que vous avez également évoqué peut-être plus précisément le cas de votre pays, le Burkina Faso, qui subit depuis 2015 de nombreuses attaques terroristes. Est-ce que vous avez été porteur d'un message particulier, d'un appel spécifique sur cette situation au Saint-Père?
Le Saint-Père lui-même a évoqué des situations difficiles qu'il connaît bien en Afrique et son désir même de visiter certains pays qui connaissent des difficultés énormes, par exemple le Soudan du Sud. Alors nous en avons profité pour brosser un tableau, pas complet, mais assez élargi, sur les difficultés qu'on rencontre au niveau de l'Afrique de l'Est et moi particulièrement au niveau du Burkina Faso et de l'Afrique de l'Ouest. Notamment depuis Boko Haram au Nigeria, l'action de violence, les forces du mal se sont répandues dans toute la zone de l'Afrique de l'Ouest, et notamment les trois pays, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et j'ai même cité récemment les attaques meurtrières que nous avons connues au Burkina Faso, au nord du Burkina Faso, où de nuit, les terroristes ont tué plus de 130 personnes. Et le pape, à cette occasion, d'ailleurs, a manifesté sa solidarité et sa compassion à l'Angélus en demandant de prier pour le Burkina Faso et en interpellant aussi les acteurs des forces du mal pour qu'ils cessent de tuer des innocents. Alors donc, le Burkina Faso, en tant que pasteur Je suis au cœur quand même de la souffrance de notre peuple. Nous essayons d'être en profonde communion, de solidarité avec les autres confessions religieuses. Comme je dis souvent, notre Kalachnikov de riposte, c'est la prière. Et nous prions. Et bien entendu, nous essayons aussi d'initier des actes de solidarité en faveur des populations meurtries, notamment les déplacés. Il y a une semaine, le ministre de l'Action sociale disait qu'au Burkina Faso, nous comptons plus d'1 400 000 déplacés internes. Vous voyez les problèmes que cela pose. Ils sont descendus donc du nord, donc nous faisons frontière avec le Mali, le Grand Mali, territoire et le Niger. Donc la partie nord sahélienne est très traumatisée. Et les populations sont obligées de fuir et de descendre vers le sud. Alors, donc, plus d'1 400 000 réfugiés. Cela ne saurait laisser indifférent le pasteur que je suis. Et nous prenons des initiatives de solidarité en faveur de toutes ces populations meurtries qui ont tout perdu et qui ont besoin certainement d'une assistance, non seulement interne, nationale, mais aussi la solidarité internationale et régionale.
Le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque de Ouagadougou au Burkina Faso et président du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, CHEAM, il répondait aux questions de Manuela Afiji.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Les combats ont repris dans la région éthiopienne de l'Afar après un mois d'accalmie, ont affirmé mercredi des sources humanitaires et rebelles sur fond de nouvelles offensives du gouvernement d'Addis Abeba. Le conflit au Tigré entamé il y a près d'un an lorsque le premier ministre Abiy Ahmed a envoyé l'armée fédérale pour chasser les autorités régionales du Front de libération du peuple du Tigré s'est propagé ces derniers mois aux régions voisines de l'Afar et de l'Amara. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a rejeté la décision rendue mardi par la Cour internationale de justice qui a accordé à la Somalie l'essentiel d'une zone maritime de l'océan Indien riche en poissons et potentiellement en hydrocarbures revendiquée par les deux pays. Pour sa part, le président de la Somalie a demandé au Kenya de respecter le droit international après la décision de la Cour internationale de justice de La Haye. L'Algérie va reprendre dans les prochaines semaines ses liaisons maritimes pour le transport de voyageurs avec l'Espagne et la France, interrompues depuis mars 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, a annoncé mardi le ministère des Transports. Restons au Maghreb. 25 corps non identifiés ont été découverts à Taourouna, une ville de l'ouest de la Libye, où plusieurs dizaines de charniers ont été mis au jour depuis l'été 2020, a annoncé mardi l'autorité libyenne en charge des disparus. Signalons qu'une mission d'enquête d'experts de l'ONU avait conclu le 4 octobre à des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis depuis 2016 dans le pays après la découverte de 10 cadavres dans cette même petite localité à vocation agricole.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niamier.
Le nouveau chef d'État de l'armée burkinabé, le général Gilbert Ouédraogo, nommé début octobre, a été chargé mardi de réorganiser les forces de défense et de sécurité pour plus d'efficacité dans la guerre contre les djihadistes dont les attaques endeuillent régulièrement le pays. La force anti-djihadiste Barkhane a débuté mardi matin la phase finale de transfert de la base de Kidal dans le nord du Mali vers la force des Nations Unies MINUSMA et de l'armée malienne, a indiqué l'état-major français. Les militaires au pouvoir en Guinée ont mis à la retraite mardi plus de 40 généraux de l'armée, dont plusieurs ayant exercé des responsabilités sous le président Alpha Condé, qu'ils ont renversé le 5 septembre dernier.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Notre programme se poursuit avec le magazine sur les organisations internationales et solidarité. Donatien Yembo.
Les organisations internationales au service de la coopération, du développement et de la solidarité entre les peuples.
La crise humanitaire en Afghanistan s'aggrave et le financement de l'aide d'urgence est nécessaire de toute urgence pour aider 20 millions de personnes sur place, c'est ce qu'a déclaré mardi le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. C'est de cela que nous parlerons dans ce magazine sur les organisations internationales et la solidarité. Un mois après l'appel à la solidarité de 606 millions de dollars lancé par les Nations Unies en faveur du peuple afghan, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré que seuls 35% des fonds nécessaires au financement des opérations pour les deux prochains mois avaient été reçus. Ces développements font suite à l'appel lancé lundi par le chef de l'ONU, Antonio Guterres, à la communauté internationale pour qu'elle injecte des liquidités dans l'économie en ruine de l'Afghanistan afin d'empêcher son effondrement pour lesquels non seulement les Afghans, mais aussi le monde entier paieront un lourd tribut. Les commentaires du secrétaire général sont intervenus avant la réunion du G20, qui a réuni mardi les principales puissances économiques dont les dirigeants devaient discuter de la situation en Afghanistan, où les talibans ont chassé le gouvernement le 15 août. S'exprimant depuis Kaboul, un porte-parole du HCR, Babar Balok, a déclaré que l'agence tentait d'établir une plateforme logistique juste à la frontière de l'Afghanistan pour distribuer de l'aide aux centaines de milliers de personnes déplacées dans le pays. M. Balok a expliqué que l'économie afghane était à un point de rupture et que cet effondrement devait être évité à tout prix, d'autant que les températures chutent désormais la nuit avec l'approche de l'hiver. Donc, les ressources sont vraiment nécessaires pour atteindre de plus en plus d'Afghans. Je veux dire, quand vous parlez de la moitié de la population qui dépend de l'aide humanitaire, 20 millions, ce nombre augmente de jour en jour, a-t-il dit. Nous avons besoin de ces ressources aussi immédiatement que possible. Le porte-parole du HCR a déclaré que l'agence prévoyait d'effectuer 3 points aériens pour intensifier l'approvisionnement de l'Afghanistan dans la période à venir. Les envois seront acheminés par voie aérienne vers Termez en Ouzbékistan, puis acheminés par camion vers Mazar-i-Sharif via le poste frontière d'Airaton. Ces envois aériens permettront de livrer des articles d'aide alimentaire dont le besoin est urgent. Le premier vol est attendu à la mi-octobre, a-t-il dit. Au début de 2021, 18 millions de personnes en Afghanistan avaient besoin d'une aide humanitaire, soit la moitié de la population du pays. Les responsables de l'aide de l'ONU insistent sur le fait que la fenêtre pour aider est étroite, car seulement 5% des ménages ont assez à manger chaque jour, et plus de la moitié des enfants de moins de 5 ans devraient souffrir de malnutrition aiguë au cours de l'année prochaine. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, OCHA, la grave sécheresse et les perturbations de l'agriculture ont accru le risque d'insécurité alimentaire à l'approche de l'hiver. Lors de la réunion extraordinaire du G20 sur l'Afghanistan qui s'est tenue mardi, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, selon son porte-parole, a souligné qu'il y avait 3 domaines d'action essentiels. Assurer une aide vitale au peuple afghan, éviter un effondrement total de l'économie du pays et un engagement constant pour faire avancer les choses dans la bonne direction pour le peuple afghan. Les fonds des Nations Unies pour la population a déclaré avoir établi 4 cliniques d'urgence statiques le long des zones frontalières de l'Afghanistan afin de fournir des services de santé génésiques et des protections aux rapatriés, aux personnes déplacées à l'intérieur du pays, ainsi qu'aux communautés d'accueil. L'agence soutient également une clinique de santé de base pour les personnes déplacées à l'intérieur du pays dans les districts de Karok, dans la province d'Herat. Pour sa part, le Programme alimentaire mondial, PAM, a prévenu qu'il n'y a pas d'argent pour payer les salaires ou acheter de la nourriture, des médicaments ou de l'eau potable. Le PAM a déclaré que la vie d'un million d'enfants est en jeu, les décès dus à la malnutrition étant imminents. L'agence souligne que ces décès peuvent être évités si des fonds supplémentaires sont libérés pour l'Afghanistan dès maintenant. L'appel éclair international est maintenant financé à 38%, a déclaré le porte-parole de l'ONU.
Notre rubrique du jour est consacrée à la culture. Le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, aura lieu du 16 au 23 octobre prochain. Plus de précisions sur l'édition 2021 de ce grand rendez-vous africain du 7e art dans cet entretien que nous a accordé Monsieur Guy Désiré Yameogo, réalisateur, conseiller du directeur général du FESPACO. Il commence par nous présenter les objectifs de ce festival.
En 1969, lorsque les cinéastes africains avaient manifesté l'envie de créer ce cadre de rencontre, ils avaient voulu surtout trouver un endroit, un lieu où ils puissent faire voir leurs films, puissent se rencontrer pour parler des problèmes du cinéma, des problèmes de l'Afrique tout court, et voir en tant que cinéaste comment est-ce qu'ils pouvaient contribuer à faire changer les choses. Beaucoup de temps est passé, nous sommes à plus de 50 ans après 1969. Le festival, malgré les difficultés, a continué à avancer. Ses objectifs sont clairs, c'est contribuer au développement du cinéma, contribuer à ce que l'image de l'Africain soit appropriée par des cinéastes africains, développer le cinéma et la télévision pour prendre en compte les questions de développement et faire en sorte que le cinéma et la télévision participent au développement de l'Afrique. Voilà un peu les objectifs du festival que nous sommes en train de porter depuis 50 ans et que nous essayons à chaque édition de faire fructifier.
Quel est le thème de cette édition?
Le cinéma africain et de la diaspora, nouveau regard, nouveau défi. Nous avons constaté l'arrivée massive de jeunes cinéastes. Nous avons aussi constaté l'arrivée de nouvelles façon de faire le cinéma et de nouvelles façons de consommer le cinéma à travers le net, à travers d'autres formes de diffusion. Et donc tout ça impose de nouveaux regards. Mais au-delà de ça, nous n'oublions pas que l'Afrique, de façon générale, et les Noirs d'origine africaine sont confrontés à de nouveaux défis. Des défis liés à la démocratie, des défis liés à la sécurité, des défis liés au financement du cinéma, des défis liés même à l'existence du cinéma, à sa distribution, à sa consommation par les populations africaines. Et c'est tout ça qu'on veut évoquer à travers un colloque, à travers un panel. Nous aurons des intellectuels, des universitaires, des cinéastes qui vont se pencher sur ce thème-là et faire des propositions pour le cinéma de demain.
Une idée des différents films qui ont été sélectionnés.
Le caractère panafricain du festival fait que tous les pays africains en général sont invités au FESPACO. Mais à chaque édition, nous choisissons un pays spécifiquement pour mettre sa production cinématographique en lumière. Et cette année, ça sera le Sénégal qui est le pays invité d'honneur. C'est le pays invité d'honneur et beaucoup de choses se feront avec les Sénégalais. La sélection officielle, c'est 230 films. Mais ces 230 films ne sont pas tous en compétition. Nous aurons en compétition long-métrage fiction, nous aurons 17 films. Nous aurons en compétition long-métrage documentaire, 15 films. En compétition court-métrage, 29 films. 17 séries télé seront en compétition. Les écoles de cinéma d'Afrique nous ont proposé des films, nous avons retenu 25 films donc d'étudiants d'école qui seront en compétition. Et enfin, une nouvelle section aussi, le cinéma d'animation africain, il y aura 29 films d'animation qui seront en compétition. Et puis, effectivement, les regards vont être tournés sur la catégorie long-métrage fiction où on décerne l'étalon d'or de Nyenenga. Et là, c'est 17 films en provenance de 15 pays d'Afrique. Pour cette édition, nous avons reçu 1134 inscriptions dans toutes les catégories. Et nous pensons que ça va être une véritable fête et ça va être aussi l'occasion de faire l'état des lieux, de savoir à quelle étape se trouve la production cinématographique africaine, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, que faut-il faire et de quoi, de quel sujet parlent aujourd'hui nos films.
Et pour cette édition 2021, quel sera le défi à relever?
Le principal défi sera de réussir un FESPACO malgré la Covid, malgré les inquiétudes que font planer les états d'insécurité, malgré la faiblesse des moyens, la situation critique dans certains pays, c'est réussir un FESPACO avec tous ces peu de moyens parce que l'art c'est important, l'art c'est vital, l'art c'est primordial aussi pour le développement.
Comment va se dérouler cette édition? une idée du programme de cette édition 2021.
Il y a un programme qui est articulé en plusieurs points. L'ouverture aura lieu au stade, comme d'habitude, dans une grande salle qui sera le Palais des Sports. Et après l'ouverture, nous aurons un film sénégalais, Atlantique, de Mati Diop, qui va faire l'ouverture. Et puis, un peu plus tard, nous aurons une veillée d'hommage au cinéaste africain disparu. Le dimanche matin, il y a la messe des cinéastes. Et puis, on va entamer avec toutes les manifestations du festival, c'est-à-dire des projections de films, c'est-à-dire des rencontres professionnelles. Et il y aura des réjouissances populaires, des spectacles musicaux. Et donc, le public en aura en tout cas pour son compte. Et nous attendons en tout cas des cinéphiles de toute l'Afrique pour ce grand rendez-vous-là. Cette année, nous avons privilégié l'aspect professionnel. Nous avons créé, par exemple, une catégorie dénommée Perspective qui va prendre 13 films longs-métrages d'auteurs prometteurs de toute l'Afrique. Ce sont 13 jeunes auteurs que nous pensons pouvoir mettre en lumière. Au-delà de cette section, nous avons aussi mis les professionnels au centre d'un espace que nous avons créé qui s'appelle le FESPACO Pro. Le FESPACO Pro va accueillir des projets en gestation, il va accueillir des films en finition, il va aussi renforcer le marché du film en faisant venir notamment des distributeurs de contenu africains. Donc cet espace pro, c'est vraiment une innovation majeure parce que ça sera très important.
Monsieur Guy Désiré Yameogo, réalisateur, conseiller du directeur général du FESPACO.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Françoise Yamia. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie et surtout de votre fidélité renouvelée à Radio Vatican. À très bientôt.